Et c'est vrai que de plus en plus d'opérations de science participative voient le jour en France et dans le domaine naturaliste. Les collectes d'informations autour des oiseaux remportent beaucoup de succès. BirdLab est une nouvelle initiative qui s'intéresse au comportement de nourrissage des oiseaux en hiver pour mieux les comprendre. Et c'est l'occasion de consacrer notre dossier aux oiseaux de proximité et aux liens que nous entretenons avec un certain nombre d'espèces familières. Toutes vos questions dès maintenant à nos invités sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Il était le premier ministre du Japon il y a 4 ans au moment de la catastrophe nucléaire à Fukushima. Naoto Kan est aujourd'hui à Paris pour une conférence publique. Il accorde sa première interview en France à la tête au carré pour nous raconter comment, de pro-nucléaire, il est devenu un fervent défenseur des énergies alternatives. Il est à la une de la science dans un instant. Céline Hila réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Fanny Cohen-Moreau avec Axel Villard.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Maxime Zucca et Grégoire Loïs, bonjour à
bonjour.
Tous les deux.
Bonjour.
On va donc s'intéresser avec vous à ces oiseaux de proximité qu'on peut croiser donc tous les jours dans nos jardins ou dans nos communes. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, Grégoire Loïs, de nourrir les oiseaux en hiver, comme on a tendance à le faire quand on a un petit bout de jardin, par exemple ?
Il faut prendre quelques précautions, mais incontestablement, c'est un vrai plaisir et une bonne idée.
Ouais, donc on peut le faire, quasiment les yeux fermés ou...
Les yeux fermés et se faire plaisir, profiter de ce spectacle qui est tous les jours un peu nouveau, qui est simplement nettoyer les mangeoires, ouais. Et puis c'est bon.
Et penser à leur donner de l'eau, hein, ça c'est vraiment le plus important.
Et penser à leur laisser une petite fontaine, mais globalement, ils arrivent à peu près à se débrouiller. Et surtout, il faut bien reconnaître qu'on se fait plaisir surtout à soi-même. D'une manière générale, ils trouvent de la nourriture, il y a des publications qui montrent que ça se passe bien pour eux, mais simplement on se fait vraiment plaisir, on se reconnecte.
Voilà, c'est l'opération BirdLab qui concerne justement le nourrissage des oiseaux en hiver pour mieux les comprendre. Maxime Zucca, on entend des chiffres assez fous hein, au sujet de la baisse des effectifs des oiseaux en Europe. Est-ce qu'on assiste à un effondrement de certaines espèces communes justement ?
De certaines espèces, oui. On a effectivement des oiseaux qui augmentent, des oiseaux qui se portent très bien, des espèces très générales. Mmh. Et puis on a des espèces, principalement celles qui sont particulièrement liées à un type de ressources particulier ou à un habitat particulier, ce qu'on appelle les spécialistes, qui déclinent plus. Et c'est particulièrement dans les milieux agricoles qu'on a les déclins les plus importants. On a certains oiseaux de proximité également, des fringiles comme les verdiers, comme le moineau même qui commence à décliner fortement. Donc on a également des oiseaux très communs qui déclinent. Globalement, on est à peu près à moins 10, moins 12% d'oiseaux en 30 ans en France. En Europe, c'est plutôt de l'ordre de moins 20% en quantité globale, donc pas en biomasse, mais en quantité quand même, en nombre d'individus. Donc ça fait ça commence à ressembler à un petit effondrement.
C'est ça. Donc c'est à surveiller en tout cas pour certaines espèces. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec les messages, toutes les questions des auditeurs sur ces oiseaux qui nous entourent. Franceinter.fr. C'était le 12 mars 2011, un jour après le tremblement de terre, le tsunami qui a eu lieu sur la côte pacifique du Japon.
Bonjour, le Japon, 24 heures après le séisme, alerte à la radioactivité, forte inquiétude autour du réacteur numéro 1 de Fukushima. Une partie du combustible pourrait avoir fondu, des centaines de milliers d'habitants évacués autour de la centrale située à 250 km de Tokyo.
France Inter.
À la une de la science aujourd'hui, donc un invité exceptionnel, Naoto Kan. Il était premier ministre en fonction au moment de la catastrophe nucléaire de Fukushima, le 11 mars 2011. 4 ans plus tard, il démarre par la France une tournée européenne pour témoigner auprès du public. Et vous pourrez d'ailleurs le rencontrer cet après-midi à 16h30 au Théâtre du Rond-Point à Paris pour une conférence publique organisée par l'association Green Cross. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Merci d'accorder votre premier entretien français à la tête au carré.
Alors...
Je vous remercie vivement de m'avoir invité à cette émission et je voudrais commencer par remercier de tout mon cœur la France qui s'est beaucoup impliquée au moment de la catastrophe du tsunami et après de la catastrophe de Fukushima et qui a beaucoup aidé le Japon. Et beaucoup, moi j'étais Premier ministre.
Naoto Kan, vous avez quitté le gouvernement japonais en septembre 2011, c'est donc 6 mois après la catastrophe. Vous êtes resté silencieux à peu près pendant 3 ans. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de parler maintenant et d'entamer cette tournée dans le monde entier ?
En fait, je ne suis pas resté silencieux pendant 3 ans. J'ai beaucoup appris sur les suites de la catastrophe. Mais là, je commence une tournée importante parce que, comme vous le savez, c'est la COP à la fin de l'année. Et je voudrais qu'il y ait vraiment des messages forts qui passent au moment de la COP.
Je voudrais vraiment transmettre
l'information, et vraiment essentiellement l'information sur qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe comme Fukushima, comment ça se gère, quelles sont toutes les difficultés et les problèmes qui émanent de cette catastrophe, pour mettre ça au débat et faire vraiment réfléchir les pays sur l'usage du nucléaire et surtout éventuellement de continuer à investir dans le nucléaire.
Voilà, et ça évidemment dans le moment crucial des accords qui découleront de la conférence sur le climat qui aura lieu donc à Paris en décembre prochain. Naoto Kan, comment est-ce qu'on s'adresse à son pays dans un moment pareil? Est-ce qu'il faut faire appel aussi à sa plus grande psychologie pour gérer une telle situation et pour informer sa population?
Il faut déjà faire un partage des responsabilités. Il y a la responsabilité de TEPCO, de l'entreprise d'électricité, qui, elle, doit gérer tous les problèmes de la centrale. Et il y a la responsabilité de l'État de décider s'il faut évacuer la population et de gérer la population. Donc, et en tant que Premier ministre, la décision principale consiste à savoir quelle zone il faut évacuer et si c'est vraiment nécessaire d'évacuer. Et comme il y avait un risque d'explosion, on a pris des décisions successives d'évacuer d'abord les 3 premiers kilomètres autour de la centrale, puis ensuite de prendre un rayon de 5 kilomètres et au final de 10 kilomètres d'évacuation, donc dans les premiers jours qui ont suivi l'accident. Et au final, on a évacué un rayon de 20 km autour de la centrale. La discussion était sur est-ce que c'est 20 ou 30 km et qu'est-ce qu'on pouvait éventuellement tolérer dans cette bande de 10 km. Mais quand j'y repense maintenant, je pense que la zone d'évacuation n'était pas assez importante. J'ai effectivement regretté de ne pas avoir ordonné une évacuation d'une zone plus importante, d'au moins 50 km, parce qu'il y a eu des fuites radioactives importantes. On n'a pas réussi à vraiment prévoir où est-ce qu'elles allaient être dirigées, et il aurait fallu, pour la sécurité de la population, évacuer 50 km. Et c'est quelque chose, après coup, que je regrette de ne pas avoir pris comme décision.
Et quelles sont donc les conséquences de cette décision qui n'a pas été prise pour les populations?
C'est difficile de répondre à cette question. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des fuites radioactives qui se sont répandues jusqu'à 50 km et qui sont dommageables pour la santé. Donc quand on l'a découvert, bien sûr, on a évacué ces zones. Et aujourd'hui, elles restent inhabitables. Donc il y a des suivis de santé des populations, mais on ne peut pas vraiment... Simplement, on aurait pu évacuer plus tôt.
Naoto Kan, justement, avant la catastrophe, vous étiez clairement pro-nucléaire. Quelle est votre position aujourd'hui, donc, à la suite des événements?
Je pensais vraiment avant la catastrophe de Fukushima que le Japon était un pays avec une technologie fiable qui en plus pouvait vendre de la technologie nucléaire à l'étranger, et j'étais convaincu que la sûreté et la sécurité nucléaire étaient suffisantes. Mais j'ai viré à 180 degrés depuis l'accident de Fukushima. C'est en fait parce que quand on a fait le scénario maximal qui m'a obligé à évacuer 250 km d'un rayon 250 km autour de la centrale, et qu'on y a un moment cru, et que j'ai réalisé les conséquences que pouvait avoir un accident nucléaire si importante, je me suis dit ce risque n'est absolument pas tolérable. Parce que c'est l'équivalent de perdre une grande guerre, et c'est même pire que ça. Parce que si vous vous rendez compte d'avoir évacué un rayon de 250 km et 50 millions de la population, y compris donc toute la population de Tokyo, c'est considéré que le Japon, on ne sait même pas comment le Japon peut survivre, bien sûr pas économiquement, mais même sur le plan humain, c'est impensable. Donc d'avoir été proche que ce risque puisse exister vraiment, et d'avoir mesuré les conséquences, me fait penser qu'on ne peut pas prendre ce risque, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je milite pour arrêter le plus vite possible l'usage de l'énergie nucléaire.
Ouais. Qu'est-ce que ça représente au fond, cet événement, cette catastrophe de Fukushima, dans votre vie politique, Naoto Kan?
まあ、私はもともと科学技術
Dans ma vie de politicien, j'ai toujours pensé que le progrès technique pouvait être une aide et une évolution pour l'humanité, mais aussi qu'il y avait des conséquences qui pouvaient être négatives. Et bien sûr, je pense à la catastrophe de Hiroshima et de Nagasaki, qui est certes un progrès technique, mais avec des conséquences sur la population pour l'humain terribles. Je pensais que l'usage de l'énergie civile nucléaire avait plutôt des côtés positifs et peu de conséquences négatives. Et quand j'ai vu l'accident de Fukushima, j'ai vu que c'était au contraire, que ça pouvait même être plus grave qu'une bombe atomique comme Hiroshima et Nagasaki. C'est là que j'ai complètement radicalement changé mon point de vue.
Allez, Axel Villard, une dernière question pour le Premier ministre Naoto Kan.
Une question sur l'actualité. La société TEPCO a annoncé dimanche de nouvelles fuites radioactives de la centrale vers l'océan. Est-ce que ça signifie que la situation n'est toujours pas sous contrôle à Fukushima ?
Le Premier ministre Abe a déclaré l'année dernière que, à présent, la situation à Fukushima, la situation était totalement sous contrôle, mais je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Et juste parce qu'on continue à arroser les réacteurs 1, 2 et 3 pour les refroidir, ça continue à être fait de cette façon-là, et on sait qu'il y a des fuites radioactives. Comme vous l'avez dit, normalement, l'eau qui est d'aspersion qui sert à refroidir les réacteurs est récupérée dans des cuves, mais on sait que peut-être toute l'eau n'est pas récupérée et qu'il peut y avoir des fuites.
Et
je suis persuadé, bien que le gouvernement dise que la pollution éventuellement qui pouvait arriver jusqu'à la mer serait confinée dans la baie, juste en dessous, en réalité, il y a des fuites forcément dans le reste de l'océan.
Naoto Kan, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur France Inter, d'avoir accordé votre premier entretien en France donc à la tête au carré. Vous serez donc à 16h30 cet après-midi au Théâtre du Rond-Point à Paris pour une conférence publique à l'initiative de l'association Green Cross. Il reste quelques places, les toutes dernières. Vous pouvez réserver donc les toutes dernières places en allant directement sur le site de l'association Green Cross, dont l'adresse est en lien sur la tête au carré. Naoto Kan, merci infiniment. Merci à vous.
Merci.
Et la traduction de cet entretien était assurée par Yves Kovacs. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, on reste justement au Japon avec des chercheurs qui ont mis au point les horloges les plus précises au monde. En effet, elles ne dérivent que d'une seconde en 16 milliards d'années. Ces instruments cryogéniques à réseau optique ressemblent plus à des ordinateurs géants qu'à des montres de poignet. Cette innovation pourrait avoir des conséquences dans plusieurs domaines, comme la mesure du temps universel. Le cannabis fait croire au cerveau qu'il a faim. Des chercheurs de l'université de Yale ont observé que la drogue fait réagir certains neurones anormalement. Au lieu de signaler la satiété, ces neurones font croire au cerveau que l'organisme a faim, même s'il vient de manger un copieux repas. Pour l'instant, l'expérience a seulement été menée sur des souris et les chercheurs doivent encore déterminer si les mêmes effets se produisent sur l'homme. Et puis l'espace des sciences de Morlaix fête ses 10 ans ce week-end. À cette occasion, des événements sont organisés vendredi et samedi dans différents lieux de la ville. Jacqueline Goua, par exemple, la spécialiste française des méduses, sera présente vendredi soir à 20h à l'amphithéâtre Yves Laurent. Vous pouvez retrouver tout le programme sur le site de l'espace des sciences de Morlaix qui est en lien sur la page Facebook de l'émission. Allez, les oiseaux de proximité, c'est dans un instant dans le dossier de la tête au carré.
I'm being dragged down by the hand of a golden giant man. Crossing my knockers, fleeting my skin. He says he'll let go if only I'd ask it of him. He says, girl, it's your call. You wanna fly or you wanna fall? So I shout, I wanna get away from you as fast as I can. I'll tell my feet to move it. I hope they have a
black sandals are walking me away. These little black sandals are heading the right way. These little black sandals are walking me away. These little black sandals saved my life today. Now I'm free, free from the big bad giant who was talking me. Thank you, feet, for guiding me. Now I'm glad somehow I got brains down there at least. These little black sandals are walking me away. These little black sandals are heading the right way. These little black sandals are walking me away. These little black sandals save my life today. Sometimes I'm tempted, sometimes I am. I would be lying if I say I didn't miss that giant man. He was a line between pleasure and pain, but me and my feet have some years to reclaim. These little black sandals are walking me away. These little black sandals are heading the right way.
C'est Fad Afridi avec Little Black Sandals.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Et les oiseaux de proximité, c'est donc le dossier cet après-midi de notre tête au carré pour comprendre quelles sont les espèces qui nous entourent, les relations que nous pouvons entretenir avec elles et pour en parler, nous guider, répondre à toutes vos questions. Grégoire Louise, donc vous êtes naturaliste au Muséum National d'Histoire Naturelle et pour Nature Paris, qui est l'agence régionale pour la biodiversité en Ile-de-France. Vous êtes également directeur de Viginature. Et Maxime Zucca, vous êtes ornithologue à Nature Paris et vous avez participé à plusieurs projets de recherche pour le Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous vous intéressez en particulier à la migration, à la conservation des oiseaux. Vous êtes l'auteur d'un livre dont on avait déjà parlé d'ailleurs dans l'émission, La migration des oiseaux, comprendre les voyageurs du ciel. C'est sorti aux éditions Sud-Ouest. Les questions arrivent. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Et Grégoire Louise, donc depuis le 24 novembre dernier, a démarré Bird Lab. Alors c'est une opération de science participative autour des oiseaux de proximité. Alors c'est vrai qu'on a le sentiment que ces expériences scientifiques en direction du public se multiplient là ces derniers temps. Est-ce que c'est une façon de combler la baisse des effectifs chez les chercheurs en faisant bosser le grand public?
Alors d'une part, effectivement, à l'origine, on pourrait imaginer que c'est essentiellement ça, mais en fait ça va bien au-delà, c'est-à-dire qu'il se crée une forme de connivence entre les participants et les chercheurs, il se crée des interactions, et ça c'est extrêmement fructueux, extrêmement riche. Donc il ne s'agit pas simplement de remplacer les yeux, les bras des chercheurs, mm-hmm. et d'exploiter
comme ça. C'est un sacré coup de main quand même. Hein.
Ah, c'est un coup de main incontestablement énorme et bien plus grand que ce qu'on pourrait imaginer avec des forces vives de gens salariés, ça c'est sûr, parce qu'il y a une diversité d'âge, de localité, de pratique, et ça c'est extrêmement riche. C'est ça qu'on essaie de construire. En
fait. Ça veut dire que tout le monde est capable de devenir scientifique du jour au lendemain quasiment ou pas ?
Sans aucun doute. La plupart des programmes, on a commencé avec des programmes très naturalistes pour lesquels il fallait des prérequis en termes de savoir. C'est-à-dire qu'il fallait connaître le chant des oiseaux, savoir reconnaître tous les papillons, savoir reconnaître toutes les libellules, etc. Mais de plus en plus, on s'oriente vers des programmes de sciences participatives qui sont vraiment ouverts à tous et qui permettent à chacun de s'en emparer. Donc là, BirdLab, c'est une interface.
Ça, c'est avec les smartphones. Hein.
Voilà, c'est avec les smartphones et les tablettes. Et donc, on a profité du fait que sur les smartphones et les tablettes, on a une interface tactile qui permet de faire glisser en temps réel les silhouettes des oiseaux au fur et à mesure de leurs activités.
Maxime Ducas, ça fait longtemps que les scientifiques font appel au public comme ça, à travers des opérations.
En France, ça fait une trentaine d'années, mais c'est principalement dans le courant des années 2000 que ça a explosé. Et ça a plein d'utilités, notamment, alors je pense qu'il y a un grand nombre d'auditeurs qui connaissent Air Parif, mais non pas Nature Parif.
Oui, donc.
Air Parif mesure la qualité de l'air, donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire assez aisément dès lors qu'on a le matériel approprié. Par contre, mesurer la qualité de la nature, on ne peut pas le faire simplement avec deux, trois instruments ou même une dizaine. Il faut plein de monde pour aller répertorier les oiseaux, les papillons, les libellules sur le terrain. Et là, effectivement, comme le disait Grégoire Louis, on ne peut pas juste le faire avec la quelques douzaines de chercheurs sur le sujet. Donc là, on a besoin de démultiplier les observateurs pour pouvoir chaque année répéter les mêmes opérations et mesurer ensuite les tendances des populations d'oiseaux, de papillons, savoir si elles augmentent, si elles diminuent, lesquelles augmentent, lesquelles diminuent, dans quelles circonstances, en fonction de la ville, de la campagne.
Ça veut dire que tout d'un coup, vous accédez donc à une masse d'informations incroyable, parce qu'il y a des milliers de personnes qui vous donnent des coups de main, donc vous avez ces informations, après évidemment il faut les traiter, mais c'est vraiment un pas en avant, une accélération en tout cas pour vous, pour les recherches.
Incontestablement, on est dans une phase là depuis quelques années où clairement on commence à attirer d'autres chercheurs des chercheurs en mathématiques pour essayer d'examiner ces jeux de données parce que clairement l'information qui est captée dans ces données, elle devient monstrueuse à cause de ces jeux de données monstrueuses. Donc ça devient très riche. On commence à c'est typique d'ailleurs des sciences participatives. Il y a un phénomène qu'on appelle un peu pompeusement la sérendipité, c'est-à-dire qu'en fait on finit par découvrir des choses sur lesquelles on ne se penchait même pas au départ. Et du coup, là, on a découvert, par exemple, en regardant les variations d'abondance d'oiseaux, comme le disait Maxime, qu'on avait aussi des informations très riches sur l'impact du changement climatique sur les communautés d'oiseaux. On n'aurait pas imaginé, il y a 10 ans ou 15 ans, quand on a refondu le stock en 2001, qu'on allait avoir ce type d'informations.
Ouais, Maxime Ducas, on parlait tout à l'heure justement de la baisse d'effectifs chez certaines espèces d'oiseaux. Là aussi, ça fait partie de programmes participatifs.
Alors le principal, c'est celui que vient de citer Grégoire, c'est le stock, le suivi temporel des oiseaux communs. Celui-ci fait appel à des ornithologues capables de reconnaître le chant d'au moins une trentaine d'espèces, 30-40 espèces assez fréquentes autour de chez eux. Et là, on répète chaque année 10 points d'écoute.
Ouais.
Donc exactement.
Donc vous allez au même endroit,
avec la même période,
voilà,
tout seul en général. L'observateur est seul. Et en France, on a à peu près un millier de carrés stock suivis chaque année comme ça. Alors un millier, c'est pas énorme. Dans d'autres pays, c'est plutôt 10 000, 15 000. En Angleterre, c'est beaucoup plus.
Et qu'est-ce qu'on doit reconnaître alors dans ces moments-là ?
Eh bien, pendant 5 minutes, on reste immobile et on note tous les chants d'oiseaux qu'on entend. Donc il faut quand même savoir reconnaître un certain nombre d'espèces, mais ça tourne autour de 30-40 espèces assez faciles finalement à reconnaître dès lors qu'on s'entraîne. Un petit temps.
Bon, eh bien, Maxime Ducas et Grégoire Louis, vous me tendez la perche pour vous passer justement à la question. On vous a préparé un petit blind test pour voir justement si vous arrivez à reconnaître des espèces d'oiseaux. On va en écouter 5 ensemble dans ce premier blind test. Évidemment, vous allez pouvoir jouer avec nous, vous qui nous écoutez derrière votre poste. Alors, répondez pas trop vite parce que j'imagine que pour vous, ce sera assez simple. Laissez-nous quelques secondes quand même. On va écouter donc le premier oiseau commun. Donc, c'est un oiseau qui vit tout près de chez nous et c'est parti.
Alors, Max, le verdier.
Verdier d'Europe, Grégoire est d'accord.
Je suis parfaitement d'accord. Et cette partie-là du chant, là, qu'on entend un petit trill comme ça, c'est une phrase de chant qui est commune à plusieurs autres espèces.
Ouais, qui veut dire quelque chose de particulier. Alors, est-ce qu'on arrive à traduire le chant de l'oiseau ?
Là, je ne sais pas, mais on est vraiment là, par contre, sur du chant. C'est-à-dire, on n'est pas sur des cris sociaux ou des choses comme ça. Là, on est sur. Je marque mon territoire, c'est chez moi, les femelles sont les bienvenues,
mâles
en dehors.
Ça veut quand même dire quelque chose. Et ça, plusieurs espèces d'oiseaux ont les mêmes phrases
ce
mélodiques.
Ce petit tri-là, tu-du-du-du-du-du, effectivement, il y a plusieurs espèces d'oiseaux, c'est un motif qui revient, voilà. un autre motif typique du verdier qui peut être assez pénible si on travaille la fenêtre ouverte et qu'il y a un verdier qui chante dans le boulot à 5 mètres. C'est cette espèce de grincement là, comme ça, qui va avec le trill de base.
Allez, deuxième oiseau, tout de suite pour vous.
Très commun celui-ci, hein. Vous l'avez tous les jours en bas de chez vous.
Voilà, et il est aussi en voie de disparition.
Aussi, en tout cas en déclin, chez nous moins que dans d'autres pays d'Europe, c'est le moineau domestique. Mm-hmm. Et en France, on commence à constater son déclin, c'est de l'ordre d'une moins 10% à peu près. Mais ouais. En Grande-Bretagne, en Allemagne, c'est plutôt de l'ordre de moins 80%, moins ouais. 90% par endroit. On n'a pas encore toutes les explications, mais c'est une synergie de facteurs.
A priori, en tout cas,
c'est principalement l'artificialisation excessive des villes, de moins en moins de verre, globalement. Que ce soit des espaces verts, des toitures vertes, des façades vertes, des espaces laissés en friche. Parce que le moineau, en fait, s'il se nourrit de miettes de pin très facilement une bonne partie de l'année, pour ses jeunes, il a besoin d'invertébrés, il a besoin d'insectes. Et donc, s'il n'a pas les espaces pour trouver cette source d'alimentation, voilà, ça lui pose problème. Il y a aussi la réfection des quartiers maintenant dans des habitations toutes aseptisées, sans aucune infractuosité, sans ouais. aucun trou, sans aucune cavité. Donc c'est vraiment une conjonction de facteurs. Il y a aussi la prédation, on en parlera tout à l'heure, mais même le fait que des oiseaux comme l'épervier aient explosé, enfin aient beaucoup augmenté depuis qu'ils sont protégés, ça rajoute encore une pression supplémentaire. Donc voilà.
Grégoire, quelque chose à ajouter sur le chant du moineau domestique?
Alors le chant du moineau domestique, lui aussi, on s'aperçoit qu'il y a plein de motifs, il est aussi repris, c'est aussi un des critères de reconnaître des cris de moineaux domestiques dans d'autres chants qui nous permettent d'identifier d'autres espèces, comme l'Hippolaïs polyglotte par exemple. Il a fréquemment des petits cris de moineaux au début d'une phrase, une phrase qui est très fauvette, c'est-à-dire une phrase très fluide, ouais. très liquide.
C'est pour se faire passer...
Ah non, je pense que c'est simplement, comment dirais-je, c'est presque un signal, c'est presque une ruse d'homme que de se dire tiens, ça ressemble un peu au moineau, donc c'est éventuellement l'Hippolaïs qui va commencer à chanter.
Allez, nouvel extrait justement avec un nouvel oiseau. Alors ça, je pense que nombreux sont les auditeurs qui vont le reconnaître. Ça va faire plaisir à Hélène Chevalier tout à l'heure qui nous en parlait justement. C'est le pigeon.
Hein, tout pigeon simplement. Et le ramier.
Pigeon ramier. Voilà. Est-ce qu'il est tout seul là dans cet extrait ou il y a d'autres oiseaux?
Il y a au moins une corneille qui a crié. Derrière, c'est il y a ça, l'air hein. d'avoir... j'ai cru entendre une mésange, mais on entend un peu au loin là.
Ouais. Voilà, le pigeon ramier.
Il y a un troglodyte là qui chante.
Ouais, il y a un troglodyte qui a commencé son trill puissant.
Grégoire, qu'est-ce qu'on peut dire sur le chant du pigeon ramier? Magnifique chant aussi.
Ouais, très magnifique aux chant de colombidés, les colombidés. C'est quand même des
c'est marrant comme ils agacent en même temps.
Ouais, ouais, tout à fait.
Ils n'ont
ouais.
pas la cote, ceux-là.
Ouais, non, pas terrible. Ouais. C'est une espèce qui explose, hein. C'est une espèce qui se porte vraiment bien.
Un peu trop.
Un peu trop, alors ça, c'est-à-dire que comme on a quand même moins 20% de déclin général sur toutes les espèces, alors savoir celle qui explose un peu trop, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. Moi, je dirais pas un peu trop.
Est-ce qu'ils prennent les niches qui se libèrent, justement, par les espèces qui s'effondrent ou pas?
Vraisemblablement, ils bénéficient d'une chute de la compétition ouais. entre espèces, et puis il a l'air d'être en train de changer son comportement migratoire, mais là, je laisse la parole à Maxime.
C'est principalement, effectivement, ils migrent de moins en moins loin. Ils profitent beaucoup des possibilités d'alimentation en hiver dans les zones agricoles, mais également en ville. Les pigeons de Paris se sédentarisent beaucoup plus. Mais par contre, chaque jour à Paris, les ramiers font 30, 40 km pour aller se nourrir.
Tous les jours?
Pas tous, mais une bonne partie, ouais. Ils font des mouvements comme ça quotidiens pour aller se nourrir dans les champs.
Donc ils sortent de la capitale, hein, ils prennent le périph et hop, ils vont chercher de quoi manger. Nouvel extrait avec ce son tout de suite.
C'est la même famille. Hein.
Voilà, c'est la nuance quand même.
Ouais, plus aigu, vous voyez, puis plus chantant. La tourterelle turque.
Voilà, bravo. Grégoire, une petite info sur le chant.
Voilà, c'est toujours les chants de colombidés, pas très jolis, pas très harmonieux.
C'est un peu répétitif.
Hein. Oui, complètement.
Ah, celle-là, elle est même profondément ennuyeuse. Et d'ailleurs, c'est un oiseau qui est en énorme expansion. Hein. Il vient, comme son nom l'indique, du Moyen-Orient, de la Turquie ouais. en particulier, mais pas uniquement. Elle a colonisé toute l'Europe de l'Ouest et il y en a certaines qui ont même colonisé l'Islande. Mais certaines, sauf qu'en Islande, ils n'aiment pas le changement. Et d'entendre ce chant des tourterelles turques l'anciennement ennuyeux, ils les ont systématiquement abattus. Et donc, dès qu'il y a une nouvelle tourterelle turque qui arrive...
Et vous dites ça avec un grand sourire. Bon, allez, dernier extrait. Voilà, c'est plus gracieux tout de suite. Hein.
Ouais.
C'est moins lourdingue que la tourterelle ou le pigeon.
La petite mésange bleue.
Voilà. Ouais. Grégoire.
Alors voilà une des stars de Bird Lab, hein, une des stars des oiseaux communs en France, hein, puisque ça fait vraiment partie des oiseaux les plus plastiques, qui sont capables de s'accommoder de n'importe quel habitat, d'être présents dans des habitats très anthropisés, le cœur des villes, et puis au cœur des forêts de montagne, de mélèzes.
Il paraît que certains oiseaux sont capables d'imiter le chant ou l'accent des autres oiseaux.
Alors ouais, mais ce sera pas le cas chez les Mésanges. Mm-hmm. On va pas trouver ça chez les Mésanges. On va trouver ça chez au moins un petit urdidé, la gorge bleue, et puis sinon essentiellement chez des petites fauvettes.
Ouais. Parce qu'il y a des accents chez les oiseaux.
Alors oui, il y a des accents, et puis il y a des phrases qui sont imitées. Et puis il y a évidemment les tourneaux dont on a parlé tout à l'heure.
Est-ce que l'oiseau des villes a un chant particulier, Maxime Ducas, par rapport à l'oiseau des champs?
Ça peut, parce que les jeunes oiseaux, ils vont beaucoup apprendre à chanter en écoutant leurs voisins, en écoutant les autres membres de leur espèce. Donc si jamais un des individus a fait une erreur régulière, répétée dans son chant, celle-ci va être reprise par les jeunes oiseaux alentours. Et donc du coup, c'est comme ça que se propage au fil des ans, les accents.
Allez, on se retrouve dans un instant, et puis les courriels et les questions arrivent sur franceinter.fr.
Bonjour Terre, écoute, je me perds dans la danse des mots, le sens des choses. Je trace une route qui se casse sans doute, alors j'en prends d'autres, je change de pôle, mais là les pieds usés, je pose mes pensées et te contemple. Car tes yeux sont les miens et mes yeux sont les tiens. Quand je sens que je perds ma voix, je prends le temps de te voir en moi. Puis je souris. Toi comme guide pour voir au mieux, car je ne veux pas ses yeux sans regard.
C'est le cliché cosmique de Mathieu Seikali, à l'instant sur France Inter, et Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de l'émission. Maxime Ducas, ornithologue, Grégoire Loïs, naturaliste, sont nos invités pour parler des oiseaux qui nous entourent, les oiseaux de proximité, ces oiseaux communs, avec beaucoup de messages qui arrivent sur franceinter.fr. Juste encore un mot, Grégoire Loïs, sur l'opération Bird Lab, c'est jusqu'au 31 mars. Et il faut dire que c'est un jeu sur les smartphones, c'est vraiment ça l'objet.
C'est vraiment un jeu, ça se rapproche d'Angry Bird.
Bon, c'est-à-dire
qu'en fait, on utilise le côté tactile qui est offert par ces plateformes Internet mobiles là, pour que les gens ils installent deux mangeoires dans leur jardin, ou ils vont sur deux mangeoires publiques. Il y a une petite cartographie des mangeoires publiques. Les deux mangeoires sont approvisionnées toutes les deux en graines de tournesol. Et en fait, on regarde les interactions entre espèces et les arrivées et départs. Donc, on fait glisser les silhouettes des oiseaux communs qui viennent à la mangeoire au moment où ils arrivent, quand ils changent de mangeoire et quand ils s'en vont. Et comme ça, on va recueillir des informations capitales sur les interactions et le comportement des oiseaux à la Mangeoire, dans un gradient qui va du cœur des villes jusqu'à la campagne la plus reculée.
Voilà, et donc on a jusqu'à la fin mars pour vous aider aussi, s'amuser et vous aider. Et puis l'application est gratuite, elle est valable sur tous les smartphones. Et les liens sont sur la tête au carré. Qu'est-ce qu'ont montré les toutes premières données d'ailleurs sur les espèces les plus présentes?
Alors, comme souvent avec les sciences participatives, les premières données, ce qui émerge tout de suite, c'est des choses que les naturalistes savaient déjà, c'est-à-dire des ressentis. Donc on voit clairement la mésange charbonnière et la mésange bleue très présentes,
ouais.
La mésange nonnette dès qu'on sort un petit peu des villes. Parmi les espèces granivores, les espèces avec des gros becs capables à même de casser des graines, on a le verdier, le moineau domestique, le chardonneret et le pinson. Alors les trois premiers souvent en bande et le pinson souvent en couple.
Ouais.
On a des oiseaux dont on sait qu'ils ne montaient pas à la Mangeoire et effectivement ils ne montent pas à la Mangeoire, comme le merle par exemple qui ne vient pas mais qui traîne beaucoup en dessous. On a le jais, on a parfois des gens qui ont la chance d'avoir des gros becs, mais là aussi il faut des conditions, il faut un peu d'arbres.
Ouais. Alors c'est vrai Maxime Zucca, il y a des oiseaux qui squattent longtemps les Mangeoires. Le temps de présence en fait est très différent selon l'oiseau auquel on a affaire.
Ouais, on a des oiseaux plus dominants que d'autres, donc qui vont s'installer et qui vont vraiment élire domicile dans le jardin. Et en particulier les fringilles, justement le verdier, les pinsons, qui eux en plus vont manger les graines sur la Mangeoire, mais également toutes les graines qui sont laissées tomber par les autres oiseaux au pied, donc ils vont passer leur temps au pied des Mangeoires en bande. Et puis au contraire, on a des oiseaux qui font que passer, qui sont beaucoup plus timides.
Ou qui viennent très souvent en tout cas, qui font des allers-retours très rapides. Hein.
Ouais, les mésanges charbonnières et les mésanges bleues, elles, c'est assez incroyable. Et là, on peut en dire un mot, si jamais vous avez un jardin, que vous regardez les mésanges dans votre jardin, vous allez en voir 5, 6 simultanément, parfois 10 si vous avez un super jardin. Mais vous allez penser que c'est le maximum, que votre jardin est fréquenté par 10 mésanges. Et lorsqu'on les bague, c'est-à-dire lorsqu'on leur pose une bague à la patte, en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout les mêmes individus qui passent au cours de la journée, qu'un individu va venir 7, 8 fois de suite se nourrir, puis hop, il passe à un autre jardin, il retourne dans le petit bois alentour. Et puis c'est une autre vague de mésanges qui arrive une demi-heure plus tard. Et comme ça, on a beaucoup de vagues de mésanges qui se succèdent dans la journée, ce qui fait qu'on peut avoir 50, 100 mésanges différentes en fait, qui visitent votre jardin chaque jour.
Valéria nous envoie un message, j'habite à Angers, dit-elle, près de la rivière, et sans quitter mon balcon, j'ai déjà recensé 38 espèces différentes. C'est beaucoup ça, non?
C'est pas mal, mais elle peut encore doubler la mise avec toutes les possibilités d'observation d'oiseaux migrateurs qui survolent simplement son appartement, des cigognes, des rapaces, elle peut atteindre 60, 70.
Ouais. Il y a combien d'espèces d'oiseaux en France, Grégoire Louis?
Alors, on va distinguer les nicheuses des non-nicheuses, puisqu'il y a les visiteurs et puis il y a les nicheurs. Les nicheurs, ça avoisine 300,
oui.
Mais avec, en fait, finalement, on a un énorme cortège d'une centaine qui constitue le gros des troupes. Et puis après, on a des nicheurs de plus en plus rares. Et ça, c'est un des traits de la biodiversité. C'est d'être composé de quelques espèces très, très abondantes et beaucoup d'espèces un peu rares.
Oui.
Et quand on étend à la migration, on doit pouvoir étendre à 450, 490, non?
Maxime Zucca.
L'espèce déjà observée en France, on est au-delà de 500. Les régulières, on est plutôt dans les 300.
Parce qu'on est visité aussi sur notre territoire par des oiseaux qui ne font que passer. Hein, oui. Mais ils sont recensés aussi, évidemment. Viron demande sur franceinter.fr, est-ce que ces oiseaux de proximité sont de bons indicateurs biologiques?
Excellent. Là, Grégoire Louis va peut-être répondre.
Voilà, incontestablement, encore une fois, je reviens un peu sur ce terme-là. Mais alors, non seulement c'est des bons indicateurs en soi, c'est-à-dire chacune des espèces, mais surtout la diversité de la communauté et la bonne répartition des espèces dans la communauté, ça, c'est le vrai bon indicateur.
Ararat sur franceinter.fr, ici dans le Var, dit-il, il y a pas mal de gens qui mangent les passereaux à Noël. C'est pas une blague, j'en connais, des piafs qui ne pèsent même pas 10 grammes, plumes comprises, au secours. Je suis effaré, comment combattre ce genre de pratique?
Eh ben, en jouant à Bird Lab. Non, l'idée, c'est qu'effectivement, bon, dans le Var, ils sont friands de rouge-gorge, notamment pinsons, surtout rouge-gorge, qui sont en plus des espèces protégées. Bon, ils mangent aussi beaucoup de grives. Mais en France, on a, si on compare avec la Grande-Bretagne, où l'on a, par exemple, lors d'événements tels que des comptages d'oiseaux au jardin, on a 200 000 participants en Angleterre. En France, on est à 3 000.
Ouais.
Par contre, en France, on a 1 million de chasseurs.
Ouais.
Donc, les tendances s'inversent, les chasseurs déclinent et les participants aux sciences citoyennes comme celle-ci augmentent, mais on est encore très loin. Donc, il faut recruter auprès de vos proches, des jeunes enfants. Cette passion qu'il y a à regarder les êtres vivants
plutôt que de les manger,
les contempler, voilà.
C'est ça le message finalement. 10 grammes hein, pour cet oiseau, c'est incroyable, il n'y a rien à manger en plus.
Hein. Bah, si, on a 10.
Oui, enfin, avec les plumes en plus. Oui. Hein. Grégoire Louis, puisqu'on parle de nourriture, dans le sens inverse, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est les nourrir, ces oiseaux. Donc vous le disiez tout à l'heure, en hiver c'est ok, il n'y a pas de problème, hein, mais il faut prendre certaines précautions. Alors, lesquelles et pourquoi?
Alors, y a aucun problème à le faire parce qu'effectivement, on assiste à un spectacle et on se reconnecte et on participe de quelque chose. Éventuellement, on échange avec d'autres gens qui nourrissent et c'est extrêmement stimulant. Il faut prendre des précautions parce que, un peu comme dans une cantine scolaire, il faut quelques mesures d'hygiène, histoire que les mangeoires ne deviennent pas simplement des bouillons de culture de salmonelle ou autres parasites. Du coup, il faut simplement nettoyer régulièrement ces mangeoires, prendre cette précaution-là. Une autre précaution, c'est de mettre les mangeoires hors de portée des chats, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'amuser ces chats avec des oiseaux à croquer.
Ouais.
Donc on met ces mangeoires suspendues. Si on les met suspendues, d'ailleurs, on pourra avoir la chance d'avoir un écureuil qui parfois vient chercher quelques graines. Enfin, ça aussi, c'est sympathique. Et puis, pour les chats, les chats, ils se débrouillent. Quoi.
Ouais, on leur donne quoi à manger, alors ?
Alors, essentiellement, des graines de tournesol, c'est vraiment parfait.
Oui.
Un autre désavantage des graines de tournesol, c'est que ça met un petit peu de temps à être consommé, donc on profite un peu du spectacle, du décortiquage.
Donc on a un peu de difficulté, comme ça au moins on a la chance de pouvoir
observer
les oiseaux.
Voilà, mais après on peut... Alors dans le cadre de Bird Lab, c'est de la graine de tournesol et puis c'est tout. Mmh. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est... Alors y a tout... On trouve maintenant, même dans les supermarchés, de la nourriture pour oiseaux, donc des gros sacs de graines de tournesol et aussi des mélanges oiseaux du ciel qui sont peut-être pas, qui sont un peu compliqués mais qui sont rigolos parce qu'après on peut voir apparaître plein de plantes sous les mangeoires au printemps d'après. Et puis on peut rajouter des choses à haute valeur calorique comme du saindoux ou de la margarine. Ça c'est vraiment quand il fait froid, c'est sympa. Et puis si on veut vraiment se faire plaisir, on achète des cacahuètes en coque.
Ouais.
On les laisse en coque et on les coud avec de la ficelle à rôti et on fait une espèce de petite balançoire comme ça.
Ah bah dites donc, oui d'accord.
Ah ouais non mais alors le spectacle c'est des mésanges sur leur balançoire, ça c'est vraiment...
Ça les amuse beaucoup. Bon, les conséquences du nourrissage des oiseaux, est-ce qu'il y en a? Parce qu'on peut se dire que ça modifie quand même la compétition entre les espèces, Maxime Zucker, non?
Ça ne modifie pas tant que ça, hein, non. Les conséquences, comme l'a dit plusieurs fois Grégoire, c'est principalement pour se faire plaisir qu'on nourrit les oiseaux, donc ça ne va pas révolutionner... l'état des populations, ça change quand même certaines choses. Il y a un changement, assez intéressant qui a été constaté. C'est, par exemple, en Angleterre, le cas d'oiseaux qui se sont sédentarisés ou au contraire qui se sont mis à aller hiverner, enfin qui ont pu survivre mieux en hiver dans ces endroits parce qu'il y avait un nourrissage hivernal très important. Mais en Angleterre, c'est particulier.
Mm-hmm.
Là-bas, il y a quand même 75% des jardins dans lesquels il y a des mangeoires.
Ouais.
Chez nous, on en est très loin. Et ce cas particulier, c'est celui de la fauvette à tête noire qui... C'est une étude d'une population en Allemagne qui a révélé ces résultats extraordinaires, qui montraient qu'une partie des fauvettes s'était perdue. C'est souvent comme ça que les choses évoluent, que des nouvelles choses arrivent.
Mmh.
Et au lieu d'aller hiverner en Espagne, ils sont allés hiverner en Angleterre. Généralement, ce genre d'oiseau ne survit pas. Ou alors, en tout cas, s'ils survivent, ce comportement est très vite contre-sélectionné au cours des générations futures. Sauf que réchauffement climatique plus nourrissage hivernal accru ont fait que les fauvettes à tête noire survivait très très bien à l'hiver en Angleterre et qu'en plus, la distance à parcourir pour rejoindre l'Angleterre était moins loin que celle qu'elles avaient à parcourir pour aller en Espagne. Donc du coup, ces oiseaux reviennent en Allemagne avant ceux qui vont hiverner en Espagne, choisissent donc de meilleurs sites de reproduction et en plus ne se reproduisent qu'entre eux, puisqu'ils arrivent avant les Espagnols.
Oui.
Du coup, ce comportement, cette nouvelle trajectoire migratoire a été sélectionnée. Et donc, c'est notamment le nourrissage hivernal qui a favorisé.
Un oiseau mieux nourri, en fait, ça va modifier aussi sa façon de...
Bah déjà, mieux nourri, il va arriver en meilleur état sur les sites de reproduction et donc être mieux sélectionné.
Gérard-Louis ?
Alors ça, c'est une histoire absolument extraordinaire. On est tout d'un coup témoin, au cours de sa vie, d'un changement de patron comme ça, migratoire ou comportemental. Et sinon, des conséquences, donc ce qu'on trouve dans la littérature scientifique, c'est par exemple, alors, une conséquence un peu rigolote, il y a moins de carabes sous les mangeoires. Donc les carabes, c'est des petits coléoptères terrestres qui ne volent pas avec les élytres soudés. Donc il y en a moins sous les mangeoires qu'ailleurs. Et donc, les chercheurs se sont posé la question, puisqu'ils ont fait des inventaires compliqués, savants, etc. Et puis en fait, ils ont fait des vidéos des mangeoires. Et en fait, mettre une mangeoire, ça génère beaucoup d'oiseaux qui glanent au sol. Et donc, des oiseaux qui glanent des graines au sol, dès qu'ils voient quelque chose bouger, un petit invertébré, ils le mangent aussi. Ce qui fait qu'il y a un peu moins de carabes sous les mangeoires.
There's a man in New Orleans, he's a rock and roller, he's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole, even though he's gone, 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 jumping like catfish on a pole. Yeah, even though he's gone, 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 out
Canada kept shaking King Creole.
When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his guitar like a Tommy gun. He starts to growl without any throat. He bends a string and that song she wrote. You know he's gone, 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 jumping like a catfish on a pole. You know he's gone, 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 and I kept shaking him real.
King Creole.
He sings a song about a crawdad hole. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about a New Orleans. You know he's gone, 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 jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, 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 and a hip shaking King Creole. Something evil, then he plays something sweet. No matter how he plays, you gotta get up on your feet. And when he gets a rockin' fever, baby, heaven sinks. He don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, 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 jumping like a catfish on a pole. Yeah, you know he's gone, 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 out of him shaking King Creole.
Yeah, no.
You know he's gone, 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 him shaking King Creole.
Elvis King Creole.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Et Maxime Jucquard, ornithologue, Grégoire Loïs, naturaliste, pour parler donc des oiseaux de proximité. Beaucoup de messages. Valéria vous demande un conseil pour un bon guide audio pour reconnaître à l'oreille les oiseaux de nos régions. Elle aimerait bien être aussi forte que vous dans les blind tests. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller, Maxime Jucquard ?
Il y a beaucoup de CD qui existent, qu'on trouve facilement à la FNAC, dans le commerce en général. Mais sinon, il y a aussi maintenant d'excellents sites collaboratifs sur Internet, notamment un qui s'appelle XenoCanto. Mm-hmm. Xeno comme étranger, XENO et Canto comme en espagnol le chant. Et dessus, il vous suffit de taper le nom d'une espèce pour accéder à des dizaines et des dizaines d'enregistrements effectués par vous et moi.
Et c'est gratuit.
De très bonne qualité, c'est gratuit.
Bon, on va le mettre en lien sur la tête au carré. Xeno Canto. Edith, comment faire pour que les pigeons ne viennent pas piller les mangeoires, justement, Grégoire Loïs ?
Alors,
on les aime pas, décidément.
Ouais, non. Alors, les pigeons, nous, on les a mis dans Bird Lab, puisque c'est des oiseaux du jardin et qu'ils sont fréquemment consommateurs à la mangeoire. Mais sinon, si on se penche, par exemple, sur le catalogue de la LPO, qui est très, très bien fourni pour le matériel de nourrissage, il y a des dispositifs anti-pigeons. Donc, on peut mettre un petit toit sur sa mangeoire un peu bas, on peut suspendre sa mangeoire, ça rend la...
Des choses douces, quand même. Hein,
bien sûr, des choses douces. C'est un peu comme pour les chats, on va pas. Hein, ouais. C'est des choses douces. Il s'agit de mettre hors de portée la nourriture pour les petits oiseaux.
Alain, je demande justement quid du rôle de la prédation des chats domestiques sur les oiseaux d'Europe. Ça participe justement au déclin des espèces, Maxime Jucquard.
C'est difficile à dire.
Aux États-Unis, il y a eu des études incroyables.
Voilà, il y a beaucoup d'études en Angleterre, aux États-Unis, un petit peu en France. On sait que c'est des dizaines de millions d'oiseaux qui chaque année sont tués par les chats. Mais il faut avoir en tête quand même que chaque année, les oiseaux, justement, les petits oiseaux produisent 2-3 nichées avec à chaque fois 5-6 jeunes. Et qu'il n'y en a que 10% à peu près qui sont supposés survivre jusqu'au printemps suivant pour assurer la pérennité de la population. Donc il y a de toute manière une mortalité extrêmement importante dans l'année par ces jeunes oiseaux. Donc les chats, certainement, attrape plus facilement des oiseaux faibles qui peut-être n'auraient pas survécu. Bon, en tout cas, pour l'instant, il n'y a aucun lien avéré entre la mortalité, la prédation par les chats et le déclin des oiseaux. Et pour une raison déjà simple, c'est que la deuxième espèce la plus tuée par les chats, c'est la mésange bleue. La mésange bleue, elle est en augmentation de 70%. Mmh. Donc voilà, ça peut être un facteur additif, ça pourrait être un facteur additif, mais les causes primaires d'extinction, de déclin des espèces, sont vraiment les modifications de l'habitat.
Il paraît que les collisions avec les vitres jouent aussi beaucoup.
C'est la deuxième cause de mortalité directe due à l'homme après les chats.
C'est vrai ?
Ouais, c'est pareil, des dizaines de millions, voire des centaines aux États-Unis. Alors les baies vitrées, déjà des jardins.
Ouais.
Je pense que tous les auditeurs qui ont un jardin, une baie vitrée, des mangeoires, ont au moins eu un ou deux oiseaux tapés dans l'hiver.
Ouais.
Et puis il y a aussi les grands immeubles pour les oiseaux en migration, les tours telles que les tours de la Défense, mais aussi tous les immeubles avec de grandes vitres. Alors là... Ouais. Quand ils sont illuminés en plus la nuit, les migrateurs nocturnes, ça perturbe leur compas, leur mécanisme d'orientation. Ils foncent droit dessus comme les papillons de nuit.
Ouais. Et puis bien sûr les insecticides.
Hein, alors ça
participe aussi
en masse à la disparition de certaines espèces.
Insecticides, évasives.
Ouais. Alors là, c'est pas de la mortalité directe, donc elle n'est pas observable et comptabilisable comme on a pu faire l'exercice pour les chats ou les baies vitrées, mais par contre, elle est certainement incontestablement beaucoup plus massive, parce qu'en fait, les insecticides, ils sont... D'abord, il y a eu une révolution verte qui a conduit à un usage massif de ces insecticides, avec des interdictions pour certains. Donc, il y a le livre de Rachel Carson, Un printemps silencieux, il date quand même de 1960, ça commence à faire. On assiste à un deuxième printemps silencieux. Et en fait, les insecticides, ils tapent la ressource, c'est-à-dire qu'ils épuisent le stock de ressources des oiseaux au moment de la reproduction, c'est le nourrissage des jeunes. Donc là, on n'est pas sur de la mortalité additive ou compensatoire, éventuellement additive, mais surtout très compensatoire. On est on les empêche de se reproduire en quelque sorte. Et on diminue l'état de santé général des oiseaux qui accumulent ça de toute manière.
Bastien sur Twitter, quelles conséquences pour l'être humain si les oiseaux venaient à disparaître, Maxime Zucker ?
Ça serait déjà extrêmement triste. Alors peut-être que l'être humain disparaîtrait avant les oiseaux, mais si jamais cela devait arriver, on aurait probablement des problèmes avec les insectes. On aurait des nuages et des nuages d'insectes, parce que les oiseaux, ils ont aussi un rôle régulateur extrêmement important.
Il y a une expérience en Chine d'ailleurs, Grégoire Louis, à ce sujet-là.
Ouais, alors c'est... J'ai malheureusement pas une documentation très précise, mais simplement, il y a eu sous Mao, à l'époque des grandes politiques publiques en Chine, une demande politique d'exterminer une espèce granivore, dont on supposait qu'elle causait des ravages dans les cultures de céréales. Et donc, on a demandé à toute la population de détruire les nids, d'effarouger les adultes, de détruire les adultes si on le pouvait, etc. Et en fait, ça a bien marché et cette espèce granivore a disparu. Et l'année d'après, il y a eu des ravages dans les cultures à cause des insectes. Parce que cette espèce, bien qu'elle soit granivore, elle nourrit ses jeunes avec des insectes au moment de l'élevage des jeunes.
Allez, on termine avec notre second blind test. Trois espèces d'oiseaux à découvrir, messieurs. Nous écoutons le premier tout de suite et on joue avec les auditeurs. C'est parti. Fabrice Drouel aussi peut jouer puisqu'il vient rentrer dans le studio. Bonjour Fabrice.
Ah, on joue, c'est bien. Bonjour.
Alors, vous entendez un oiseau là, est-ce que vous savez lequel c'est ?
C'est le petit compagnon habituel de l'hiver qui vient manger jusque sous nos fenêtres les petites miettes de pain qu'on dépose avec la gorge rouge.
Ouais, c'est celui qui a le chant mélancolique, un joli chant avec des individus qui nous viennent de la Russie ou d'encore plus loin en hiver dans les jardins, au cœur de nos jardins.
Ils viennent un peu se réchauffer, en tout cas avoir un peu moins froid qu'en Russie.
Voilà, vous trouvez de la nourriture dans un sol moins gelé.
Allez, deuxième oiseau. Fabrice,
je suis nul en oiseau.
Vous êtes nul en oiseau, moi aussi.
Moi aussi.
Heureusement, on a nos spécialistes. Maxime, vous l'avez reconnu celui-là ou pas ? Ah, il a l'air de vous
ça
poser.
C'est une sorte de pic.
Un pic ou un rapace ?
Une alarme de pique et pêche, mais c'est pas
ouais,
le cri
ouais,
le petit
si,
pic.
Là, ça venait de faire un pic.
Ah non. Ah, c'est un rapace, ça. C'était un jeune.
C'est un épervier.
Un jeune épervier. Ouais,
eh ben bravo.
Un jeune épervier. Mais c'est pas le cri qu'on entend le plus souvent.
C'était pas très typique. C'était pas facile.
Et puis le dernier qui arrive.
Ouais. Le plus beau chant des oiseaux d'Europe, quoi.
Ah, c'est le plus beau chant pour vous des oiseaux d'Europe ?
Ah ouais.
Et pourquoi donc ?
Je sais pas, il est mélancolique, flûté, triste, avec des trilles. Enfin, c'est le plus varié, je sais pas.
Et il s'agit de, s'il vous plaît ?
Bah alors.
Fauvette. Ah. Petite fauvette.
Fauvette à tête noire. Voilà, pour être tout
alors,
à fait
pour le
précis.
Coup, c'est pas elle que je pensais au début. Hein.
C'est vrai ?
Ouais, non, c'est pas elle que je pensais. Je me suis aperçu en parlant que j'étais en train de dire une bêtise.
Bon, vous maintenez mais quand même que la fauvette a un beau chant. Alors.
Je maintiens qu'elle a un beau chant, mais j'ai pensé au début, tout de suite au début, que c'était un merle noir. Ouais. Et donc, effectivement, la fauvette à tête noire a un chant un peu flûté comme le merle, mais moins que sa cousine, la fauvette des jardins. Mmh. Et donc, mea culpa.
Allez, on envoie le merle noir, puisqu'on l'a aussi sous le coude.
Voilà, là, c'est la classe.
Hein ?
Là,
ça en
c'est
jette, hein.
Vraiment la classe.
Ça, en c'est
plus,
du chant. Hein.
En plus, en ville, c'est un chant qu'on entend la nuit. C'est vraiment beau.
Ouais. Dernière question de François. Comment enrayer ce déclin d'espèces communes de proximité, comme les hirondelles de fenêtres ?
Alors, pour les hirondelles, là, clairement, le déclin, il est vraisemblablement sur les changements des pratiques agricoles, avec moins d'élevage sur sol, avec beaucoup d'insecticides. Et du coup, comment enrayer ? On peut déjà faire des politiques qui sont mises en œuvre par les associations, comme par exemple pour l'hirondelle de fenêtre, de lutter contre la rénovation de façade qui détruit les nids. On peut favoriser des accès au garage pour les hirondelles de cheminée qui nichent sur les poutres du garage. Mm-hmm. Mais sinon, on peut aussi lutter beaucoup en consommant de moins en moins de produits de l'agriculture conventionnelle qui est très consommatrice de pesticides.
Et puis aussi directement dans les jardins, en aménageant son jardin de manière un petit peu plus naturelle.
Mm-hmm.
Donc là aussi, en utilisant le moins de produits possible. Merci en tout cas à tous les deux, Maxime Zucca. Donc, La migration des oiseaux, hein, ce livre pour comprendre les voyageurs du ciel, c'est aux éditions Sud-Ouest. Et puis Grégoire Loïs, donc Bird Lab, c'est jusqu'au mois de mars pour vous aider en jouant à mieux comprendre les habitudes des oiseaux de proximité. Merci beaucoup à tous les deux. Fabrice Drouel, dans un instant, on parlera pas d'oiseaux dans Affaires Sensibles. Hein.
Non, on parlera de l'attentat contre l'immeuble de Drakkar qui abritait les parachutistes français au Liban en 1983. Il y a eu 58 morts. On en parlera avec notre invité, le journaliste que tout le monde connaît, Philippe Rochaud, spécialiste du Liban.
À tout à l'heure.